Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. J'espère que vous êtes en forme en ce mercredi 4 octobre 2017. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonne journée mondiale des animaux, Hélène.
Ah, ben c'est une belle journée. On va penser à tous les animaux domestiques et sauvages, tous les animaux.
Tous les animaux, oui. Tous les êtres du spectre animal qui ont été et qui sont encore sur notre belle planète depuis 1929 que cette journée est soulignée dans le monde.
Bien, merci de nous l'apprendre.
Et également, les événements marquants. Ce 4 octobre, on débute notre petite chronique en 1535. Impression de la première Bible en anglais à Londres, donc plus de latin depuis plus uniquement de latin depuis 1535, 1824 au Mexique, proclamation de la République, et 1830, indépendance de la Belgique. 4 octobre 1909, l'Université de Montréal est inaugurée par le premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. 1930, battu de peu à l'élection au Brésil, Getúlio Vargas lance le soulèvement qui le portera à la présidence. Donc c'est bien, on se présente aux élections, on n'est pas content des résultats, on se soulève et on devient président anyway. 1957, l'Union soviétique met en orbite le premier satellite artificiel, Sputnik, un engin de 53 cm de diamètre qui pesait environ 85 kg et qui prenait 95 minutes pour tourner autour de la Terre à une petite vitesse de 24 500 km/h. 4 octobre 1975, inauguration du nouvel aéroport de Mirabel, celui qu'on a surnommé l'aéroport de l'an 2000, qui n'a pas survécu à l'an 2000.
Qui a été surnommé un petit peu plus tard l'éléphant blanc.
Tout à fait. Et qui était un des projets de Pierre-Elliott Trudeau,
oui.
Qui a... lui hérité d'un autre aéroport.
C'est vrai.
1978, dans l'île Notre-Dame à Montréal, tenue d'une première course automobile de Formule 1 au Canada. 1991, le 4 octobre, ce fut l'entrée du traité sur la protection de l'Antarctique, qu'on peut résumer notamment avec les points suivants. L'Antarctique est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Interdiction des activités relatives aux ressources minérales autres que celles menées à des fins scientifiques. Et toute activité doit faire l'objet d'une évaluation préalable d'impact sur l'environnement. D'année en année, il y a certaines nations qui revendiquent le fait qu'on devrait annuler ça parce qu'il y a des hydrocarbures dans l'Antarctique, donc il y a de l'argent à faire là. Mais bon, le traité perdure, traité sur la protection de l'Antarctique depuis 1991.
Jean-Sébastien, l'éditorialiste, qui s'exprime ce matin.
Et 1994, en Suisse et à Moran Height, au Québec, 53 adeptes de la secte de l'Ordre du Temple solaire sont retrouvés morts. C'était un 4 octobre. Les anniversaires de naissance et de décès en ce 4 octobre, on souhaite bonne fête à l'acteur et réalisateur américain Buster Keaton, un des pionniers du cinéma muet.
Ouais.
L'acteur américain Charlton Heston, également né en 1923, Moïse, Ben-Hur et bien d'autres. Le chanteur français Julien Clerc, né en 1947, et l'auteur Anne Rice en 1941, elle connue notamment pour ses romans sur les vampires.
Mais Julien Clerc, il est né en 1947, donc il a 70 ans aujourd'hui.
Déjà, et encore actif.
Ma préférence à moi.
Et les décès, 1982, le pianiste canadien Glenn Gould, qu'on a mentionné à cette émission la semaine dernière, c'était son anniversaire de naissance le 25 septembre. 1970, on perdait la chanteuse rock Janis Joplin et 1864, l'homme fort Joe Monferrand.
Grosse date. Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse aujourd'hui, la presse au Nevada, la plus grande tragédie de nos vies. Las Vegas pleure ses morts. La presse a rencontré des blessés et visité Mesquite, la ville du tueur où le jeu et les armes sont omniprésents. Des investissements de 500 ou 320 millions, Netflix aura droit à des crédits d'impôt selon deux experts. La dernière bouchée. Depuis 2014, plus de 120 Québécois sont morts après s'être étouffés en mangeant. Et la presse à Los Angeles, Blade Runner, 2049, sobre première pour Denis Villeneuve, notre compte-rendu et nos critiques. « La presse à Las Vegas, les enquêteurs qui tentent de déterminer pourquoi Stephen Paddock a tiré dans la foule analysent le contenu de son ordinateur et de son téléphone cellulaire, regardent les images de surveillance du casino et s'attendent à de nouvelles informations de la part de sa copine à l'étranger. Marilou Denley est considérée comme une personne d'intérêt et a parlé à la police à partir des Philippines où elle est en voyage, a indiqué le shérif Joseph Lombardo. Le FBI la ramène aux États-Unis pour l'interroger. Une douzaine d'enquêteurs, la plupart en veste du FBI et portant tous des bottines bleues pour éviter de contaminer les lieux du festival de musique devant l'hôtel casino Mandalay Bay, ont recueilli des éléments de preuve là où les coups de feu ont semé la panique et tué des dizaines de personnes. Des souliers, des poussettes, des chaises, des verres fumés, des sacs à main. Les lieux en entier étaient encombrés de diverses choses, a dit le procureur général du Nevada, Adam Laxalt. Cela ressemblait à une zone de guerre. Il y avait des marques de sang partout. Stephen Paddock s'est suicidé avant qu'une escouade anti-émeute ne force la porte de sa chambre d'hôtel au 32e étage. Les enquêteurs ont trouvé des caméras vidéo installées dans sa chambre et sur un chariot à l'extérieur, afin de repérer quiconque s'en approcherait, a indiqué M. Lombardo. Un gardien de sécurité de l'hôtel qui s'était approché de la chambre durant la tuerie a été atteint par balle à travers la porte et blessé à une jambe. Tuerie de Las Vegas, silence on tue, c'est un éditorial signé Alexandre Sirois. Si les membres du Congrès américain avaient travaillé un peu plus rapidement, la pire fusillade de l'histoire moderne des États-Unis aurait peut-être été beaucoup moins bruyante, point d'exclamation. Vous avez bien lu. Un projet de loi actuellement à l'étude à la Chambre des représentants du Congrès américain permettrait de faciliter l'achat de silencieux pour les armes à feu. Au Canada, le silencieux est un dispositif prohibé, mais en sol américain, il est légal d'en acheter dans la plupart des États. L'ouïe des chasseurs est en jeu, soutiennent certains partisans du silencieux. Cela dit, la démarche prend malgré tout plusieurs mois, et elle nécessite la vérification des antécédents de l'acheteur. C'est faire preuve de bon sens. Plus on empêchera les criminels d'avoir accès au silencieux, plus il sera facile de les repérer quand ils vont utiliser une arme à feu. Mais les parlementaires républicains ne sont pas du même avis. Ils veulent permettre à leurs concitoyens d'acheter un silencieux aussi facilement qu'une pinte de lait. « C'est une question de sécurité », avait soutenu l'an dernier le plus sérieusement du monde l'un des fils de Donald Trump. Visiblement, la plupart des républicains sont sur la même longueur d'onde que le président et son fils au sujet des armes à feu. Selon eux, il faut assouplir les lois existantes. Ils examinent actuellement plusieurs autres initiatives à Washington. Par exemple, faciliter la vente de munitions conçues pour pénétrer un vêtement par balle. Décidément, le ridicule, lui, ne tue pas. La tragédie de dimanche semble avoir refroidi temporairement les ardeurs des républicains. Ils ne tenteront pas, semble-t-il, de faire adopter toutes ces mesures aussi rapidement que prévu. Mais une fois la poussière retombée, ils vont certainement récidiver. Et leurs chances de succès seront élevées, puisqu'ils contrôlent les deux chambres du Congrès américain. Ils ont d'ailleurs, en début d'année, voté pour faciliter la vente d'armes à feu à de nombreux Américains dont les problèmes de santé mentale ont été documentés. On peut certes alléguer que l'auteur de la fusillade de Las Vegas n'a pas eu besoin de silencieux ni de munitions spéciales. C'est vrai. Mais s'en tenir à la plus récente tragédie serait de l'aveuglement volontaire. Les chiffres sont accablants. Il y a eu en moyenne une fusillade, entre parenthèses 4 morts ou plus, chaque jour aux États-Unis cette année. Dire qu'un meilleur contrôle des armes à feu s'impose est un euphémisme. Or, le Congrès est pris en otage par le lobby des armes à feu mené par la toute-puissante National Rifle Association. « Notre heure est venue », a dit l'an dernier Wayne Lapierre, le grand patron de l'organisation, peu après les élections de novembre. Celle-ci a investi des millions pour soutenir des candidats républicains. On comprend mieux pourquoi les parlementaires républicains ne sont pas en mode solution. Les Américains ne peuvent pas non plus compter sur Donald Trump pour les remettre dans le droit chemin. Il fait lui-même fausse route. Jusqu'ici, après une tuerie, il semblait prendre un malin plaisir à tourner le fer dans la plaie. Il soutenait que s'il y avait eu sur les lieux plus de gens armés, entre parenthèses comme au Bataclan à Paris en 2015 par exemple, un tel carnage n'aurait pas eu lieu. Cette fois, il n'a pas récidivé. Peut-être a-t-il réalisé que cette logique absurde ne résiste pas, dans le cas de la tuerie de Las Vegas, à l'épreuve des faits. Alors c'est l'éditorial d'aujourd'hui dans la presse de Alexandre Sirois, « Silence, on tue ». En remportant l'élection partielle dans Louis-Hébert lundi, la coalition Avenir Québec a réussi à prendre un château fort. Au lendemain de la défaite, l'heure était au bilan au Parti libéral. Analyse de Denis Lessard, après l'électrochoc, les rumeurs de remaniement s'emballent. Depuis la raclée de lundi, les officines libérales bruissent de rumeurs sur l'imminence d'un remaniement ministériel. Jean-Louis Dufresne, le chef de cabinet sortant, en avait parlé lors de son souper de départ. Un remaniement était prévu pour la semaine prochaine, mais resterait mineur. Mais c'était avant l'électrochoc de lundi. Depuis l'élection de Louis Hébert, la machine à rumeurs s'est remise en marche et à grande vitesse. On réentend tous les scénarios, plusieurs se trouvaient dans les journaux déjà le printemps dernier. Laurent Lessard veut être délesté des transports. Il a failli être exaucé fin juin. À l'interne, des sources indiquent que Philippe Couillard tient à ramener Robert Poëty. Il attribue à cette rétrogradation, dis-je bien, du début de 2016, l'amorce de tous ses problèmes. Exit alors Rita DeSantis, voisine de circonscription. Pour attirer les électeurs de Québec, on veut faire monter Véronique Tremblay plus proche du profit de la CAQ. Dans les cabinets ministériels, on conjecture sur le sort de Martin Coiteux, méthodique et méticuleux qui ferait bien au transport. Isabelle Melançon et Marie Montpetit auraient une chance, mais on parle davantage depuis des mois d'André Fortin de l'Outaouais. Est-ce qu'un chambardement du Conseil des ministres est la réponse qu'attendent les électeurs? Si l'on ne bouge pas de gros canons comme les Barrettes, Leitao et Moreau, le brassage de cartes risque d'être vu comme une opération purement cosmétique. Veillée pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Encore de l'espoir 11 ans après le meurtre de sa sœur. Des familles se réuniront par centaines aujourd'hui pour honorer la mémoire des quelques 1200 femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Le 4 octobre est le temps pour les proches endeuillés de veiller pour celles dont ils n'ont plus de nouvelles. Mélanie Morrison y sera pour sa sœur Tiffany, disparue puis retrouvée morte dans un boisé de Kanawake. J'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes. Une blague de mauvais goût de Luc Lavoie évoquant la chasse aux séparatistes a créé bien des protestations sur les réseaux sociaux hier soir. Le commentateur a fait cette déclaration en après-midi à l'émission La Joute, animée par Paul Larocque et à laquelle participe aussi Bernard Drainville à LCN. Alors qu'il était question de pétition au sujet de la chasse à l'écureuil citée en après-midi à l'Assemblée nationale, M. Lavoie a fait cette remarque. On pourrait prendre nos guns comme les Américains, puis on tire des écureuils. En fait, moi, j'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l'air que c'est pas facile. Luc, fais pas de blague avec ça, a aussitôt répliqué Paul Larocque avant que Luc Lavoie commence à rire. En milieu de soirée, devant le tollé provoqué par ses propos, M. Lavoie a offert ses excuses sur sa page Facebook, qualifiant ses propos d'inacceptables et stupides. « J'ai parlé de faire la chasse aux séparatistes et dès que je l'ai dit, j'ai su que cela était offensant et odieux », a-t-il écrit. La direction de TVA a annulé la rediffusion de la joute à 23 heures sur LCN.
Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, Je sais si peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La 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 la. Je sais, c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace, tu te lasses. Mon amour, tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Des beaux jours, mon Dieu, qu'il passe vite. Et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire? Et qu'un jour, on s'aime, etc. La 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 la. Je t'aime, je t'aime, etc. Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs, n'oublie pas.
Monsieur Julien Clerc, Monsieur Julien Clerc, qui célèbre son 70e anniversaire de naissance aujourd'hui, et le titre de cette pièce, Je t'aime, etc.
À la une du Devoir de ce mercredi 4 octobre, la Catalogne unie contre la violence. Des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues des villes et villages pour dénoncer la répression commandée par Madrid. Une photo très impressionnante, une marée humaine, littéralement. Les libéraux ont tout à craindre dans la région de Québec. Les élections partielles au Québec constituent des révélateurs de l'humeur de circonscription apparentée, selon deux chercheurs. Histoire, au temps où le fisc faisait payer les riches, l'impôt sur le revenu au Canada a beaucoup évolué au cours des 100 dernières années. C'est un article d'Éric Desrosiers. Sputnik, la conquête de l'espace. Il y a 60 ans, les Soviétiques prenaient les Américains de vitesse. La réforme Morneau expliquée au PM. Mélanie Joly vise les fournisseurs d'Internet. Et Maria n'est pas Katrina, dit Trump à Porto Rico. Un Québec inéquitable envers ses générations selon un sondage. Dette, régime de retraite, hausse des frais de scolarité, système public de santé, changement climatique. Le choc des générations s'immisce régulièrement en filigrane des grands titres au Québec. Un vaste sondage de l'Institut du Nouveau Monde, INM, met en lumière les divergences et les ressemblances d'opinions traçant les contours des relations entre groupes d'âge. L'organisme voué à la participation citoyenne et à la santé démocratique a mandaté la firme Léger pour se pencher sur la perception de l'équité et de la solidarité intergénérationnelle. Plus de 3000 personnes de trois grandes tranches d'âge ont répondu à une quarantaine de questions dans cet exercice. Une constante se dégage de leurs réponses, la perception d'iniquité entre les générations. Jeunes comme vieux voudraient devenir une priorité pour les politiques publiques du Québec, les uns comme les autres se percevant comme plus négligés. Il ressort également de ce sondage que les Québécois de plus de 55 ans sont en proportion plus nombreux à penser que les choses n'évoluent pas pour le mieux dans la province. Serait-ce à cause de ce sentiment d'être les laissés pour compte? Ce sont 74 % des répondants dans cette tranche de population qui trouvent que le Québec répond moins bien à leurs besoins. Le sondage révèle toutefois que ce groupe d'âge n'est pas le seul à se sentir nostalgique du passé. Le tiers des 18-34 ans et 43 % de la tranche mitoyenne 35-54 ans répondent également que les choses sont pires qu'il y a 10 ans. Un autre tiers des plus jeunes fait plutôt le constat de l'immobilisme, affirmant que la situation est pareille à celle qui prévalait il y a une décennie et qu'elle sera pareille dans 10 ans. La source de cette forme de pessimisme diffère cependant. C'est le climat social et politique qui semble inquiéter davantage les Québécois de plus de 35 ans. Du côté de la génération Y, c'est plutôt la dégradation de l'environnement qui récolte le plus large consensus, 60 % affirmant qu'il est moins bon qu'avant. Ce large sondage servira donc de carburant intellectuel à une tournée du Québec par l'Institut. Des forums ouverts aux citoyens sont prévus dans 17 régions de la province avant d'en arriver à un sommet en novembre 2018. Les immigrants se regroupent en banlieue comme à la ville. Plus les années passent, plus les immigrants quittent Montréal pour s'établir dans les couronnes. Mais alors qu'on pourrait croire que c'est parce qu'ils s'intègrent et se fondent de plus en plus dans le paysage socio-culturel québécois, le taux de concentration de ces populations demeure assez élevé, même en banlieue. Ce qui ressort d'une mise en forme des données des derniers recensements. Pardon. C'est ce qui ressort d'une mise en forme des données des derniers recensements de Statistique Canada à deux semaines de la sortie des nouvelles tendances en immigration du recensement de 2016. La théorie de l'assimilation spatiale prédit une sorte de disparition naturelle de la ségrégation, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on doit conclure en voyant que les immigrants s'installent en banlieue, indique René Houle, chercheur pour Statistique Canada. C'était le point de départ de notre étude. Avec la théorie de l'assimilation spatiale, on pouvait s'attendre à ce que les immigrants et les enfants des immigrants aient tendance à se disperser, mais ça ne marche pas comme ça, souligne-t-il. Le chercheur, qui s'est intéressé à l'origine des immigrants et à leurs mouvements sur le territoire canadien, a mesuré l'indice de dissimilarité, soit la tendance des populations à se concentrer ou à se disperser sur le territoire. Son constat, les immigrants qui migrent hors de la métropole vont avoir tendance à se reconcentrer ailleurs. Ce n'est pas parce que les immigrants vont en banlieue qu'ils se dispersent. Les Français, États-Unis et Portugais seraient parmi les plus dispersés, alors que les Philippins, les Indiens et les Grecs seraient des populations plus concentrées. Mélanie Joly vise les fournisseurs Internet. Après avoir rejeté en juin l'idée que les fournisseurs d'accès Internet, FAI ou FAI, verse une redevance pour financer la production culturelle, Ottawa semble prêt à changer son fusil d'épaule. Ceux qui bénéficient des nouveaux modes de consommation de la culture devraient contribuer à son financement, a ainsi indiqué mardi la ministre du Patrimoine canadien. On a demandé un rapport au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, pour savoir quels sont les nouveaux modèles d'affaires à l'ère du Web et quels sont les joueurs qui devraient contribuer au système pour assurer la pérennité de son financement, a glissé Mélanie Joly mardi matin au sortir d'une rencontre avec les membres de la Coalition pour la culture et les médias à Montréal. Nous, on souhaite que les entreprises qui bénéficient du nouveau modèle d'affaires participent au financement, a-t-elle dit, a-t-elle soutenu aussi. Dans le contexte de la réforme de nos lois sur la radiodiffusion et des télécommunications, on va s'assurer d'avoir un nouveau modèle qui va assurer du financement. La question du rôle des fournisseurs accès Internet qui flotte au-dessus du débat culturel depuis plusieurs années a été au cœur des discussions entre Mélanie Joly et la coalition mardi. Ce dont on a parlé, ce sont les FAI, a confié après la rencontre la présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean. La bataille va être là. La rencontre organisée dans les bureaux de l'UDA a duré plus d'une heure. La veille, des porte-paroles de la coalition avaient taillé en pièces le projet de politique culturelle de Mme Joly. Cette dernière a parlé d'une bonne discussion qui s'est bien passée. « J'ai entendu les inquiétudes, je les comprends », a-t-elle soutenu. Les conservateurs cèdent devant l'insistance des libéraux et des néo-démocrates et acceptent qu'une des leurs qui ne s'oppose pas au droit à l'avortement préside le comité parlementaire de la condition féminine. Les règles veulent que ce soit l'opposition officielle qui préside ce comité parlementaire. Mardi matin, libéraux et néo-démocrates ont voté contre l'élection de Mme Rachel Harder pour nommer, malgré elle, une autre élue conservatrice, Karen Vecchio. En début d'après-midi, les conservateurs baissaient les bras, mais Mme Harder demeura la porte-parole de son parti en matière de conditions féminines. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir à l'émission La Revue de presse du Journal de Montréal, mais d'abord une pause et une chanson.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Formidable, Stromae sur Canal M.
À la une du Journal de Montréal, c'est une une qui frappe. Alors, un destin tragique. 55 victimes du massacre de Las Vegas ont été identifiées. En une du journal, il y a 20 photos de ces personnes tombées sous les balles qui sont publiées. Ratée dans la distribution pour les enfants prématurés, Emma Québec a gaspillé 1 400 litres de lait maternel. Élection dans Louis Hébert, l'arme secrète $1 million de la CAQ. Un camelot du Journal de Montréal sauve 5 vies dans un incendie. Il sera honoré à l'Assemblée nationale pour avoir agi avant l'arrivée des pompiers. Un camelot du Journal sera honoré donc pour avoir sauvé la vie d'un célibataire ainsi que d'une mère et de ses 3 enfants prisonniers des flammes le 24 février dernier. Il s'agit de Mario Labelle qui sera honoré le vendredi 13 octobre à l'Assemblée nationale. Emma Québec a perdu au moins 1 400 litres de lait maternel qu'elle doit distribuer aux hôpitaux pour les enfants prématurés depuis la mise sur pied du service en 2014. Les pertes pourraient même atteindre 60 % de ce qu'elle a recueilli. C'est ce que révèlent des données obtenues par l'agence QMI en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Bien que la tendance soit à l'amélioration, Emma Québec doit toujours jeter en 2017 au moins 2 fois plus de lait, 17,6 % que l'objectif qu'elle s'était fixé au départ, 8 % Pour recueillir le lait maternel destiné aux bébés prématurés de 32 semaines et moins, Emma Québec compte sur une armada de mamans bénévoles qui ont récemment donné naissance et qui ont un surplus de lait. Selon Emma Québec, une part importante du lait est jetée en raison d'une contamination bactériologique à la source. Lorsqu'on constate qu'il y a un enjeu avec les donneuses, on communique avec elles, a indiqué Laurent-Paul Ménard, porte-parole chez Emma Québec. L'organisme a aussi connu des problèmes d'équipement et de recrutement de donneuses. Il reconnaît d'ailleurs que la situation n'est pas optimale. On est encore dans une courbe d'apprentissage, a dit M. Ménard. La directrice générale de Préma Québec, un organisme qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, trouve épouvantable qu'autant de lait soit gaspillé. Alors le groupe Préma Québec insiste sur l'urgence de trouver des solutions pour que Emma Québec réussisse à fournir en lait maternel, provenant de mères bénévoles, les enfants prématurés. Le parcours du lait, l'excès de lait tiré par les mères bénévoles et congelé par ces dernières, le lait est acheminé chez Emma Québec par un service de messagerie. Le précieux liquide est analysé et pasteurisé en laboratoire avant d'être vendu aux hôpitaux de Montréal et de Québec pour 170 $ le litre. Le lait est bu par les prématurés pour leur permettre de prendre des forces. le gouvernement provincial est prêt à taxer Netflix. Malgré l'entente entre Ottawa et Netflix, le gouvernement Couillard se dit prêt à imposer la TVQ aux géants américains. Le service offert par Netflix est un service qui est taxable, qui est à l'intérieur de l'assiette fiscale, a rappelé le ministre des Finances Carlos Letao hier. Donc, pas question pour nous d'abdiquer quoi que ce soit. Nous avons toujours l'intention de continuer à faire nos démarches pour que cette taxe-là soit perçue. Le ministre souligne qu'il s'agit d'une question d'équité. Le ministre Letao reconnaît toutefois que si Québec va de l'avant avec la perception de la TVQ, son gouvernement devra se fier à la collaboration de l'entreprise dont le siège social se trouve hors de sa juridiction. La taxe de vente doit être perçue par l'organisme ou l'entreprise qui fournit, qui vend le service, dit Carlos Letao. Donc, nous, on doit avoir la collaboration et la participation de l'entreprise qui fournit ces services-là. Québec devra également consulter auparavant l'entente conclue entre Ottawa et Netflix. Un million pour un logiciel électoral. La CAQ s'est payé un nouvel outil informatique qui a coûté dans les 7 chiffres pour l'aider à remporter l'élection partielle de lundi dans la circonscription de Louis-Hébert, a appris notre bureau d'enquête. Le président de la coalition Avenir Québec, Stéphane Lebouillonnec, admet qu'après les candidats, ce nouveau logiciel est l'arme secrète, le secret du caramel dans la caramilk. Ça a été la dépense la plus importante du parti ces dernières années, dit-il en entrevue. Dans l'organisation, c'est la pierre angulaire de notre stratégie organisationnelle. La Coalist est une application sur Internet développée au cours des dernières années par la CAQ qui servira aussi au scrutin général de 2018. Son coût de conception n'entre pas dans les dépenses électorales. Elle centralise plusieurs informations sur les électeurs pour les organisateurs et militants caquistes qui peuvent ainsi identifier les sympathisants lors des élections. Ça nous permet d'ajuster notre message en fonction des informations qu'on a au moment de faire des appels ou du porte-à-porte, ajoute Samuel Lemire, président sortant de la relève de la CAQ, qui a testé Coalist dans la partielle de Gouin avant le véritable coup d'envoi dans Louis-Hébert. L'outil, qui appartient à la CAQ, a été développé par une entreprise québécoise. On pense que c'est un développement qui vaut plusieurs millions et qu'on a été chanceux de faire ça en s'en tirant autour d'un million, dit M. Lebouillonnec. Pour ou contre la chasse à l'écureuil, cette question controversée a fait l'objet de 4 pétitions présentées à l'Assemblée nationale hier. Le député péquiste Sylvain Roy a tout d'abord déposé une pétition qui demande au gouvernement du Québec de maintenir l'écureuil dans les espèces non permises pour la chasse au Québec. On y vante par exemple ses activités de transplantation de grains et de décomposition du bois, et on déplore que la chasse puisse laisser derrière elle des orphelins incapables de survivre. M. Roy a alors présenté une seconde pétition sollicitant également le statu quo, soit l'interdiction de chasser ces rongeurs grimpeurs de taille moyenne qui vivent en ville et en forêt. Les parlementaires ont ensuite eu un fou rire lorsque le caquiste Mathieu Lemay a déposé une 3e pétition qui réclame le droit de chasser l'écureuil roux et l'écureuil noir dont la viande est protéinée et faible en gras, selon le citoyen Martin Poirier qui s'est fait porte-parole de cette cause. On spécifie que la réglementation actuelle sur la chasse au petit gibier permet la chasse de nombreuses espèces telles que les lapins, lièvres, coyotes, loups, marmottes, ratons laveurs, renards, perdrix, pigeons, cailles et bien d'autres, mais exclut l'écureuil. Total des comptes, 1 571 citoyens pour la chasse à l'écureuil, 1 720 contre. La police américaine a indiqué hier qu'elle interrogerait bientôt la conjointe de Stephen Paddock qui se trouvait aux dernières nouvelles aux Philippines et qui pourrait détenir des informations sur les motivations du tueur. La femme Marilou Denley, une Australienne de 62 ans d'origine philippine, pourrait arriver aux États-Unis dès aujourd'hui pour être entendue par le FBI, selon des sources policières citées par la chaîne NBC News. Cette ancienne employée de casino vivait aux côtés de Stephen Paddock dans la propriété que celui-ci possédait à Mesquite, au Nevada. De rabais contre 4 heures de bénévolat. Un marché du quartier Centre-Sud à Montréal permet aux personnes démunies de briser leur isolement et d'avoir accès à des fruits et légumes à rabais en échange de leur implication bénévole. 3 commerces d'alimentation sur 4 dans le quartier sont des dépanneurs. Certaines personnes dans Centre-Sud ne peuvent pas se rendre à distance de marche dans un commerce alimentaire. Parfois, tout ce qui est accessible, c'est un dépanneur, déplore Claudie Thibodeau, coordonnatrice de la mobilisation et de l'engagement au Carrefour alimentaire Centre-Sud qui chapeaute le marché solidaire Frontenac. Le marché saisonnier, qui célèbre son 10e anniversaire, est situé à l'extérieur de la station de métro Frontenac dans le quartier Centre-Sud et n'a que 3 employés rémunérés. Cependant, il compte sur plus de 80 bénévoles réguliers de tous les âges. Les bénévoles qui s'impliquent 4 heures par mois obtiennent une carte de membre qui leur permet d'avoir 20% de rabais sur leurs achats en tout temps. Christine Bélanger, une aînée qui réside dans Centre-Sud, s'implique régulièrement au marché solidaire Frontenac, qui est en fonction de mai à décembre. « Ici, je me sens aimée. On est comme une famille. J'aime beaucoup ça », s'est-elle réjouie.
L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces 8 lettres-là. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A.
Composition de Serge Gainsbourg, paru en 1963. C'était extrait de version Jane Birkin, de son album de 1996, avec L-A-E dans la T-I-T-I-A.
La presse à Los Angeles, Blade Runner 2049, une première mondiale dénuée de tout glamour, envoyé spécial Marc-André Lucier, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Dans le cadre hollywoodien, la soirée du 3 octobre 2017 était ciblée depuis longtemps comme l'une des plus importantes de l'année. La capitale mondiale du cinéma s'apprêtait à revêtir hier ses plus beaux atours à l'occasion du lancement planétaire de Blade Runner 2049, l'une de ses plus prestigieuses productions, très attendue, il va sans dire. Grand tapis rouge, défilé de superstars, profusion de flashs étaient prévus et autant de caméras que de micros tendus à la volée. Mais voilà, rien de tout cela n'a eu lieu car le destin s'en est tristement mêlé. Au lendemain de la tuerie de Las Vegas qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés, personne n'avait l'âme au glamour hier, surtout dans une ville qui a tissé des liens aussi intimes avec la capitale du jeu. Ainsi, toutes les activités de cette nature ont été supprimées du programme de la soirée. Qu'à cela ne tienne, plusieurs centaines de badauds se sont néanmoins regroupés devant le Dolby Theatre pour faire une haie d'honneur aux invités, dans l'espoir d'apercevoir les héros de la soirée, Harrison Ford et Ryan Gosling notamment. Ces derniers ont toutefois opté pour une entrée plus discrète. Cette décision d'annuler le caractère festif de l'événement a été rapidement prise lundi. Les studios ont d'ailleurs fait parvenir aux médias cette déclaration officielle. En raison des événements tragiques survenus hier, dimanche, à Las Vegas, Warner Bros., Pictures, Sony Pictures et Alcon Entertainment annulent le tapis rouge pour la projection de Blade Runner 2049 qui devait avoir lieu demain, hier entre parenthèses. Nous nous joignons au pays tout entier pour envoyer nos pensées les plus sincères et nos prières à tous ceux et celles qui sont touchés par cette tragédie. La présentation du film de Denis Villeneuve qui pose des questions fondamentales sur le genre humain s'est ainsi déroulée dans une atmosphère de sobriété et de dépouillement. Cette décision est parfaitement compréhensible, a commenté le cinéaste au cours d'un entretien avec la presse quelques heures avant la première. Nous sommes tous touchés et bouleversés par cet événement tragique. Plus tôt dans la journée, le cinéaste s'est pointé à l'endroit où a lieu la cérémonie des Oscars depuis plusieurs années afin de superviser la qualité technique de la projection. Sur ce film, la conception sonore est très particulière et je voulais m'assurer que tous les niveaux soient bien ajustés, explique-t-il. Ce genre d'exercice sert de répétition, en fait, un peu comme on le fait pour les projections officielles du Festival de Cannes. Je suis ravi qu'on présente le film dans mon format préféré, 2h40 Scope Dolby Atmos. J'ai souvent dit qu'il n'y aurait pas de « Director's Cut » de Blade Runner 2049, mais sur le plan technique, je dirais que dans mon esprit, ce serait cette version-là, dit Denis Villeneuve. Célébrant hier avec le clan familial son 50e anniversaire de naissance, Denis Villeneuve envisage aujourd'hui la carrière de son film avec sérénité, fort d'une critique mondiale généralement élogieuse. Quand on m'a annoncé que les studios devançaient l'embargo critique, je me suis dit que c'était bon signe. Dès le début, je me suis blindée car je savais que le projet pouvait être honni de toute la communauté cinématographique s'il n'était pas à la hauteur. J'ai du mal à lire les critiques, surtout les bonnes, que je trouve parfois déroutantes. Mais là, elles sont favorables et je ne cacherai pas mon soulagement. Une grosse étape a été franchie. Surtout, Ridley Scott m'a dit à plusieurs reprises à quel point il appréciait mon film. Sa bénédiction m'a mis en paix. Il reste maintenant à voir comment le film se comportera au box-office. Les pieds sur terre. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la presse spécialisée pour constater à quel point Denis Villeneuve est devenu un véritable chef de file à Hollywood. Tous ses faits et gestes, y compris les rumeurs de projets grandioses, font systématiquement l'objet d'articles, d'analyses et de commentaires. Le principal intéressé garde pourtant les pieds bien sur terre. Si on suit ça de trop près, ça devient un peu, comment dirais-je, désincarnant, commente-t-il. J'essaie de savourer le moment présent, mais je n'ai pas vraiment de recul. Je ne veux pas être déstabilisé non plus par tout ce qui s'écrit sur Internet, car l'idée est de conserver le rapport que j'ai moi-même avec mon film et aussi le rapport que j'entretiens avec le monde en tant qu'individu, dit Denis Villeneuve. La tournée de promotion internationale n'est pas encore terminée. Denis Villeneuve se rendra en Chine et au Japon à la fin du mois afin de lancer son film là-bas. Plusieurs projections destinées aux différentes associations professionnelles d'Hollywood sont aussi prévues au cours des prochaines semaines, histoire de bien se positionner en vue de la prochaine saison des récompenses. Avec la multiplication des médias, il est certain que j'ai souvent l'impression de répéter les mêmes choses, fait-il remarquer. Mais je suis bien conscient du privilège qu'on me donne et je ne m'en plaindrai certainement pas. Cela dit, honnêtement, ce que j'ai à dire de plus intéressant est quand même à l'écran. Rappelons que Blade Runner 2049 lancera ce soir le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, quelques représentations spéciales ouvertes au public. Ouvertes au public sont prévues dans les cinémas demain soir, notamment au Cinéma du Parc qui offrira le film en version originale avec des sous-titres en français. Il prendra l'affiche partout vendredi. Dans la presse, section débat, voici une lettre en réaction à la chronique de Patrick Lagacé, « Avez-vous fini? J'ai un autre patient qui m'attend », publié samedi dernier. Éric Sauvageau, spécialiste en médecine de famille. Depuis 2 ans et demi, on nous accable des pires défauts dans les médias. Cela a d'abord été la paresse et plus récemment l'avarice et l'envie. La semaine dernière, il s'agissait d'un cas de colère où un oncologue monstrueux fait défaut d'empathie et d'humanité devant un patient avec un diagnostic grave. Patrick Lagacé mentionne bien que c'est une chronique sur certains médecins qui ont été amputés du muscle de l'empathie et qui rendent encore pire une situation déjà désespérée. Malgré cet avertissement, c'est une histoire qui m'interpelle, car elle est de moins en moins banale. De plus en plus souvent, j'entends mes patients se plaindre qu'un médecin est comme un coup de vent et qu'on ne peut pas lui poser de questions, ou encore qu'il est bête comme ses deux pieds. Croyez-moi, aucune spécialité, aucun genre ni aucun âge n'est épargné de ces critiques cinglantes, parfois drôles, mais parfois préoccupantes. Globalement, je suis bien content qu'on en parle enfin de cette humainerie, que ça existe en effet. Et j'ose imaginer que les médecins et autres professionnels de la santé concernés ont été sensibilisés, mais j'en doute. Qu'en retiendront les lecteurs? Que les médecins sont méchants? Je parie. Je n'ai pas pour but de défendre ni de justifier le manque de professionnalisme de cet oncologue, mais je trouve que cette histoire serait autrement plus intéressante si on avait cherché à savoir qu'est-ce qui a mené ce médecin spécialiste à se conduire ainsi. Tout le monde sait qu'il y a 2 côtés à une médaille. Alors pourquoi ne pas s'enquérir de ce qui s'est passé de l'autre côté pour ce médecin ce jour-là, lors de cette entrevue? Un oncologue en plus, hey! Depuis quand est-ce qu'il agit comme ça? Est-il en dépression? A-t-il un trouble de l'usage d'une substance? Est-il en train de divorcer? Son enfant est-il mort? Dans mon expérience clinique, quand une personne est désagréable, il y a presque toujours un problème de santé mentale, diagnostiqué ou non, derrière ces agissements. Dans chaque métier ou profession, il y a des extraordinaires, des ordinaires et des moins qu'ordinaires. Qui voudrait d'un professeur qui a perdu la flamme de l'enseignement pour ses enfants? Personne. Ça existe aussi. Le programme d'aide aux médecins québécois levait un drapeau rouge dans son rapport en 2016, « La santé des médecins, état des connaissances et approches préventives », en faisant mention que les médecins seraient plus à risque de suicide, d'abus de substances et d'épuisement professionnel que la population en général. Toujours selon ce rapport, près d'un médecin sur deux rapporte des signes de burn-out et les plus à risque seraient ceux de première ligne. Aussi, les morts par suicide sont plus fréquents chez les médecins que dans la population en général, l'écart apparaissant dès la période des études en médecine. Se pourrait-il que la pression surajoutée depuis le début de la réforme de la santé soit la goutte qui fasse déborder le vase? On nous demande de voir plus de patients, mais sans les ressources promises par le ministère de la Santé. Le fameux centre de répartition des demandes de services ne fournit pas à la tâche, le dossier Santé Québec est en panne régulièrement, etc. Que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre. Le désengagement est un signe d'épuisement professionnel. Arrêtons de croire que les médecins sont surhumains. Nous, nous sommes humains, nous aussi. Et l'erreur est humaine. Cet oncologue a certainement besoin d'aide, alors que ce soit en lisant ses lignes ou par l'entremise du soutien de ses collègues, je souhaite de tout mon cœur qu'on lui offre de l'aide. C'est en cherchant à se comprendre qu'il pourra être empathique et humain, pas en lui lançant des roches. C'est donc un texte d'Éric Sauvageau, spécialiste en médecine de famille, intitulé « Les médecins sont des humains », réaction à la chronique de Patrick Lagacé qui s'intitulait « Avez-vous fini? J'ai un autre patient qui m'attend », publié samedi dernier. C'est dans la presse d'aujourd'hui, section « Débat ». Merci d'écouter l'émission Les Voix de service quotidien. En cette belle journée d'automne, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, les actualités internationales, culturelles. On aura de la visite en studio. Christiane Campagna qui parlera d'un concours. Vous aurez la chance de gagner des billets pour un concert à l'Olympia dimanche. Plus de détails dans quelques minutes. Et aussi, il y aura la tournée des journaux régionaux. Restez avec nous.
C'était Peter Henry Phillips qui reprenait Repartir à zéro, bien sûr, ce succès de 1989, oui, ce succès de 1989, dis-je bien, de Joe Bocan.
Actualité internationale, le fou de Las Vegas, énigme nationale, Stephen Paddock, le malade, entre guillemets, ayant commis le massacre de Las Vegas, selon les mots de Donald Trump, restait mardi une énigme nationale aux États-Unis, où enquêteurs et médias s'employaient à comprendre ce qui a pu faire basculer ce discret retraité jusque-là sans histoire. Inconnu des services de police, il a accumulé dans la plus grande discrétion un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions et a assassiné 59 personnes dimanche soir, plus qu'aucun tireur dans l'histoire des États-Unis. Plus de 500 personnes ont aussi été blessées. Les conclusions des investigations sur la personnalité et le mobile du tueur auront des conséquences très politiques. Trump a rencontré mardi à Porto Rico des sinistrés de l'ouragan Maria, serrant des mains, posant sur les photos et distribuant du riz dans une tentative d'étouffer les critiques sur la lenteur de l'aide fédérale apportée au territoire américain dévasté. Près de deux semaines après le passage dévastateur de cet ouragan de catégorie 4, Porto Rico panse toujours ses plaies. Une grande partie des habitants vit encore sans électricité, sans accès à l'eau potable ni au carburant. Et parfois sans toit. Pourtant, Donald Trump a minimisé sur place la situation sur l'île par rapport à une vraie catastrophe comme Katrina à la Nouvelle-Orléans. Chaque mort est une horreur, mais si vous regardez une vraie catastrophe comme Katrina et les centaines et centaines de personnes qui sont mortes et que vous comparez cela avec ce qui s'est passé ici avec une tempête qui était totalement imposante, personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Quel est votre bilan? A demandé M. Trump avant de poursuivre, 16 morts contre des milliers. Si la mobilisation du président américain après le passage des ouragans Harvey et Irma au Texas et en Floride a été globalement plutôt bien accueillie, celle concernant Porto Rico a été beaucoup moins consensuelle. Nous sommes scandalisés par la lenteur et l'inadéquation de la réponse du gouvernement américain à Porto Rico, a lancé la présidente d'Oxfam America, Abby Maxman. Après quelques jours d'accalmie, l'exode des Rohingyas vers le Bangladesh a repris à grande échelle ces derniers jours, principalement en raison du manque de nourriture dans l'ouest du Myanmar, où la souffrance est inimaginable selon l'ONU. Plus de 507 000 membres de cette minorité musulmane ont déjà passé la frontière pour fuir une campagne de répression de l'armée birmane consécutive à des attaques de la rébellion Rohingya. Cela représente la moitié de cette communauté apatride d'un million de personnes installées au Myanmar depuis des décennies, mais victimes, d'après l'ONU, d'une épuration ethnique. Quelque 4 000 à 5 000 Rohingyas arrivent tous les jours, affirme le garde-côte bangladais, M. Islam. Certains Rohingyas pensaient pouvoir rester au Myanmar, mais ils viennent aussi ici maintenant, ajoute-t-il. L'Organisation mondiale de la santé a dit mardi craindre fortement que l'épidémie de peste affectant les zones urbaines à Madagascar se propage au reste du pays, alors que le risque reste modéré au niveau régional et faible au niveau international. Le risque de propagation est élevé au niveau national, modéré au niveau régional en raison des vols fréquents vers les îles voisines de l'océan Indien, et faible au niveau mondial, a déclaré un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeyer, lors d'un point de presse à Genève. Des milliers de femmes ont manifesté de nouveau hier en Pologne contre la limitation de l'accès à la pilule du lendemain par le gouvernement conservateur nationaliste et une proposition de loi visant à limiter davantage le droit à l'avortement dans ce pays déjà parmi les plus restrictifs d'Europe. Les manifestations pour la défense des droits des femmes liées à la procréation se sont déroulées dans plusieurs villes, un an jour pour jour après une mobilisation de dizaines de milliers de femmes dans toute la Pologne qui avait empêché les conservateurs de droit et justice d'interdire complètement l'avortement. Après l'échec de leur tentative, il y a un an, les organisations pro-vie ont préparé une nouvelle proposition de la loi limitant davantage l'accès à l'IVG, mais qui n'est pas encore débattue par le Parlement. L'avortement n'est autorisé en Pologne qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la vie de la mère ou de la malformation irréversible du fœtus. Le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a réuni son gouvernement mardi dans la bande de Gaza, une première depuis 2014 censée matérialiser une réconciliation avec le Hamas à laquelle Israël a cependant fixé ses propres conditions. Israël n'est disposé à traiter avec un gouvernement parlant au nom de toutes les factions palestiniennes que si le Hamas démantèle son bras armé, rompt avec l'Iran et reconnaît Israël, a dit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. De la visite rare en studio, ma collègue Christiane Campagna, qui est responsable des communications. Christiane, bonjour!
Bonjour Hélène!
On va s'aimer! Il me semble que ça me dit quelque chose, cette chanson.
Oui, sauf que chez nous, c'est une chanson connue surtout par Martine Sinclair. Oui. Et c'est le cas de beaucoup de chansons de cet homme dont je vais vous parler, Gilbert Montagnier, qui est de passage pour un premier concert à Montréal ce dimanche à l'Olympia. Et oui, ces chansons ont souvent été interprétées par des artistes d'ici, donc « On va s'aimer » par Martine Sinclair, « J'ai le blues de toi » par Mario Pelcha,
ah oui,
à la fin des années 80.
Très belle chanson.
Les sonnets des tropiques par Hudson. Donc, c'est peut-être ce qui explique qu'il n'est pas venu si souvent. Et il est en concert, donc, dimanche, et Canalem fait tirer des billets. Ça se passe via notre page Facebook. Donc, vous allez au facebook.com/, c'est Canalem Vues et Voix, en un mot.
Mm-hmm.
Et là, vous pouvez, la publication va être épinglée en haut de la page. Vous commentez tout simplement et ça va vous rendre éligible au concours. Je vais annoncer les gagnants toujours sur Facebook
vendredi.
Quand
vous dites vous commentez, qu'est-ce qu'on...
Vous dites « J'aimerais ça aller voir ce concert-là. »
Je veux y aller.
Je veux y aller, je veux y aller.
Un cadeau de l'Action de grâce.
Et bien entendu, si vous n'êtes pas déjà fan de la page de Canalem, bien vous en profitez pour faire « J'aime ».
Bon.
Alors, c'est une pierre deux coups et vous courez la chance de gagner...
Des billets
des
pour
billets
aller
pour
voir.
Ce concert, pour cet auteur-compositeur qui est non-voyant depuis l'enfance.
Ah oui. Alors, rappelez-nous, Facebook.
C'est facebook.com/canalemvuesetvoix.
Mm-hmm.
Et là, la publication à propos de Gilbert Montagnier va être là. Et vous n'aurez qu'à commenter pour courir la chance de gagner une paire de billets.
Bon, alors merci Christiane pour ces explications. Et puis, participez en grand nombre. Bonne chance. Vous allez peut-être aller assister à un concert... rare parce que c'est de la visite rare, Gilbert Montagnier. Merci, Christian. Homer Simpson n'a pas changé d'une miette depuis sa première apparition sur la télévision québécoise en 1991, il y a plus de 25 ans. Il maintient son poids, entre parenthèses, son surpoids, porte encore les mêmes vêtements et travaille toujours à une centrale nucléaire. Mais dans quelques semaines, ce père de famille ne sera plus le même. Sa voix québécoise changera. Depuis 1991, Hubert Gagnon est l'unique doubleur d'Homer Simpson au Québec. L'acteur est, si indissociable du rôle que c'est le seul qu'il joue depuis un quart de décennie, mais il devra prendre une pause pour des raisons de santé. Pour la 28e saison des Simpsons, d'après Télétoon La Nuit. Un retour n'est toutefois pas exclu. C'est Thierry Dubé, connu entre autres pour avoir doublé Vin Diesel, et le clown Pennywise qui prendra la relève. Le principal intéressé, c'est bien qu'il a de gros souliers à chausser. Rizzolo Lintello, 22 ans après avoir obtenu son diplôme de l'École nationale de l'humour, Martin Perizzolo présentait finalement hier son tout premier one-man show intitulé « Nous ». Alors, Raphaël Gendron-Martin fait un compte-rendu critique et le verdict, avec son look d'Intello et son énergie propre à lui, Martin Perizzolo a voulu amener le public dans son univers singulier. Avec ses réflexions songées et ses remarques parfois volontairement stupides. L'humoriste a par contre encore un peu de travail à faire s'il veut vraiment réussir à captiver l'auditoire durant 90 minutes sans temps mort. La très grande compétition en humour cet automne ne lui rendra pas non plus la tâche facile. On en a parlé hier, Tom Petty, le rocker de l'Amérique profonde, est décédé lundi soir à 66 ans d'une crise cardiaque, a annoncé sa famille. Beaucoup de témoignages, dont ceux de Bob Dylan. C'est une nouvelle choquante, accablante. J'avais une admiration sans borne pour Tom. C'était un grand interprète rempli de lumière, un ami, et je ne l'oublierai jamais. Bruce Springsteen a écrit sur Twitter « J'ai toujours ressenti de profondes affinités avec sa musique. Il était un grand compositeur et interprète. Chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression de retrouver un frère. Notre monde en sera un plus triste sans lui. » Et Wynn Butler de Arcade Fire, le chanteur, « Free Fallen » a été la première et l'une des seules chansons que j'ai apprises à la guitare. Son influence a été considérable. Quelle journée, écrivait-il sur Twitter. La grande dame du showbiz québécois Denise Filiatreau lançait hier « Quand t'es née pour un petit pain », une autobiographie écrite avec l'aide de sa fille Danielle Lorrain. Parents et amis se sont réunis au Musée d'art contemporain pour découvrir cet ouvrage qui lève le voile sur une carrière qui s'étend sur 7 décennies, sur scène que sur petits et grands écrans. Mais sa carrière n'est qu'un des éléments abordés dans ce livre, Denise Filiatreau, s'y confie également sur différents aspects de sa vie privée, de son adoption à ses amours, en passant brièvement par sa relation avec Dominique Michel, moins intime que la légende ne le veut. Rédacteur en chef de Cro pendant 11 ans, Pierre Huet travaille sur un livre qui regroupera ses meilleurs textes parus dans l'irrévérencieux magazine qui a été publié mensuellement de 1979 à 1995. Les 4 ou 5 premières années du magazine, je devais écrire les 2/3 des textes. J'avais 3 ou 4 pseudonymes pour fournir à la tâche. Je suis en train de repasser dans tout mon matériel pour voir ce qui est à mon goût et ce qui n'a pas trop mal vieilli, dit l'auteur qui a aussi connu un grand succès comme parolier dans le groupe Beau Dommage. Le livre paraîtra à la maison d'édition Perrault Éditeur de l'auteur Brian Perrault. Le titre et la date de sortie n'ont pas été encore déterminés. Allons-y avec les informations régionales tirées des journaux régionaux, évidemment. Voilà la nouvelle bibliothèque du Plateau, Mathieu Bélanger dans le droit. Les résidents du Plateau auront une nouvelle bibliothèque dont la toiture sera végétale et où la lumière et la végétation seront omniprésentes. Le jury a fait son choix parmi les quatre propositions faites au concours d'architecture de la future bibliothèque du Plateau. Le conseil municipal a entériné mardi soir le projet soumis par le consortium formé par l'équipe d'architectes Atelier TAG et Neuf et CIMA+. Selon le jury, cette équipe s'est notamment démarquée par la qualité de sa prestation lors du concours d'architecture. C'était la première fois que Gatineau invitait ses citoyens à voter pour un concept architectural d'un nouveau bâtiment public. Le vote des citoyens a compté pour 10 % de la note totale du jury qui a été attribuée aux quatre équipes finalistes. La nouvelle bibliothèque sera caractérisée par d'immenses fenêtres sur chacune de ses façades. Elle sera divisée en trois sections, adultes, enfants et adolescents. Une terrasse extérieure sera aménagée. Les architectes expliquent que la toiture végétale permettra une isolation naturelle. Des chambres solaires capteront l'énergie en hiver et évacueront l'air chaud en été. L'aménagement paysager ne nécessitera pas d'eau puisqu'un système de récupération des eaux de pluie est prévu. La nouvelle bibliothèque du Plateau aura une superficie de 1650 mètres carrés. Elle sera construite au coût de 13 millions de dollars. Les travaux doivent commencer au printemps 2018. Dans la tribune, Isabelle Pion, le plaisir d'enseigner l'écriture. Le concours littéraire Sort de ta bulle s'approche de ses 15 ans d'existence. Depuis sa création, des centaines d'élèves ont plongé dans leur imaginaire pour coucher des histoires sur papier. Certains ont depuis fait leur marque avec leur plume ou la feront certainement. L'enseignante en français Linda Dion de l'école secondaire Montcalm est celle qui a mis au monde cette activité qui déborde largement d'un simple concours et qui en est à sa 14e édition. Sort de ta bulle, ce n'est pas qu'un nom, c'est aussi ce qui permet à des jeunes de s'extraire de leur cocon d'écriture, voire de leur isolement pour partager avec leurs camarades. D'abord ouvert aux jeunes de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, CSRS, le concours est maintenant ouvert aux élèves de la ruche de Magog. Les jeunes qui aiment écrire et lire, ce sont souvent ceux qui rasent les murs, pense Linda Dion, qui a déjà publié trois romans tout en poursuivant sa carrière d'enseignante. À cet âge, les jeunes n'ont pas encore d'égo littéraire. On peut tout leur apprendre, tout est encore possible. Le concours littéraire a remporté le prestigieux prix Robert Bourassa récemment, un prix remis par le ministère de l'Éducation. L'anniversaire de Sort de ta bulle coïncide aussi avec la naissance du cours de création littéraire donné par Linda Dion. Les cours de création littéraire se donnent au cégep, à l'université, mais il n'y en a pas au secondaire. Au moment où j'ai fait ma recherche, j'ai fouillé partout au Québec, voir s'il y avait des options spécifiques consacrées à cela, nulle part. Souvent, il y a des professeurs qui ont des projets de création avec des étudiants dans le cadre des cours de français. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas être dans un contexte d'enseignement du français. On s'entend, on fait du français quand même, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est vraiment de les amener à découvrir une voie littéraire et de monter la barre le plus haut possible pour qu'ils soient face à des auteurs contemporains. Je ne me substitue pas aux professeurs de littérature qu'ils vont rencontrer au cégep ensuite, mais je les dévergonde complètement, note l'enseignante. Elle entend par là que le cours est pour les élèves un moment d'exploration. Linda Dion est de celles qui croient que l'écriture n'est pas suffisamment enseignée. Il y a maintenant près de 30 ans que Linda Dion gravite dans l'univers de l'école secondaire Montcalm. Cette native de Québec a d'abord été animatrice socioculturelle à la frontalière de Coaticook avant d'atterrir à Sherbrooke. « C'est fou parce que je me suis mariée 4 fois. J'ai déménagé 50 fois, imagine-t-elle. » « Je ne suis pas à première vue très stable, mais l'élément stable de ma vie, c'est l'école Montcalm. Si tu m'avais dit à l'époque que j'allais rester aussi longtemps, je n'aurais jamais pensé ça. Je m'y suis trouvée tellement bien. Au fil des ans, Linda Dion a tâté différentes formes d'art, la chanson, le théâtre, l'écriture. Il faut dire qu'elle baigne dans cet univers. Son père, Eddie Dion, peint et vend ses toiles dans le magnifique décor de Charlevoix. Ariane Deslions et sa quincaillerie musicale, ça vous dit quelque chose? C'est la grande fille de Linda Dion. L'enseignante qui transmet sa passion aux élèves a toutefois décidé de se consacrer plus particulièrement à l'écriture. Je m'étais promis qu'à 40 ans, j'aurais publié. C'est là où j'ai décidé d'arrêter de faire du théâtre. Un quatrième roman. Linda Dion publiera cet hiver un quatrième roman, Grosse, où elle abordera la question de l'image corporelle. J'en ai parlé un peu avec la déferlante, mais là, j'y vais à fond de train. J'ai eu une période d'anorexie-boulimie intense. J'étais sur le point de me trancher le ventre. J'ai réalisé 8 dessins à l'époque. Je n'arrivais plus à écrire ni à chanter. C'est en dessinant que j'ai vu que ça n'allait pas. Ses dessins se retrouveront dans son livre. Déjà bardée de plusieurs diplômes, elle a entrepris un doctorat en création littéraire avec l'Université du Québec à Rimouski. C'est un projet de retraite en création. Ce grand tournant viendra d'ici 2 ou 3 ans. Dans le Nouvelliste, Gabriel Delisle, exercice d'urgence au port de Trois-Rivières. L'actualité nous le rappelle tous les jours, des événements malheureux peuvent survenir partout. Afin de se préparer à toute éventualité, le port de Trois-Rivières mène périodiquement des exercices pour tester ses mesures d'urgence. La dernière, qui s'est déroulée lundi matin, mettait en scène des risques d'un incendie ou d'une déflagration sur un navire à la suite de la découverte d'un colis suspect. Les intervenants devaient répondre en fonction de ce scénario. C'est ainsi que le groupe Océan est intervenu avec son bateau pompier, que le navire présent au port de Trois-Rivières a fait fonctionner ses lances d'incendie et que les pompiers de Trois-Rivières se sont rendus sur place avec des motos marines. Les résidents du secteur ont pu entendre le son d'une sirène retentir en avant-midi. Il s'agissait de l'alarme donnée aux travailleurs des entreprises présentes sur le site pour indiquer le déclenchement de l'exercice de sécurité. Plusieurs entreprises travaillent au port de Trois-Rivières. Les employés qui travaillent le plus loin sur le site devaient se rendre au point de rassemblement. Nous étions alors capables d'évaluer le temps pour évacuer tout le monde, précise Virginie Deschambault, directrice des communications au port de Trois-Rivières. Et dans le quotidien, Louis Potvin, un défi lancé aux sédentaires. La deuxième édition de la Grande Marche Lac-Saint-Jean sera sous la présidence d'honneur de Micheline Dallaire et Laurence Voyer. Les deux dentistes invitent la population de toute la région à participer à cette marche qui aura lieu le 21 octobre à 14h à Dolbeau-Mistassini. Cette activité, qui est réalisée en collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie, avait attiré 1000 participants à sa première édition. Ce n'est pas nécessairement le nombre qui compte, mais de faire bouger les gens et que ça se poursuive dans le temps. Nous visons des gens qui sont moins habitués à faire de l'exercice, à se lancer ce défi, et que ça devienne par la suite une habitude. L'an dernier, malgré le mauvais temps de la pluie au début et de la neige à la fin, les gens sont dit qu'ils avaient eu beaucoup de plaisir, mentionne la présidente du comité organisateur, la docteure Marie-Andrée Savard. Et c'est ainsi que s'achèvent et se complètent les voies de service quotidien de ce mercredi. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et on se retrouve, si vous nous écoutez en direct, avec l'émission Les Paractualités dans quelques minutes.